un temps pour lire.
Nous allons parcourir aujourd'hui un livre rempli de vie paru dans la collection Hommes et montagnes des éditions Glénat. Il s'agit de l'ouvrage de Vincent Lecarme intitulé Sentier de vie, récit d'un médecin de campagne. Un livre qui nous emmène en Haute-Maurienne dans les pas de l'auteur, généraliste en montagne. Nous sommes en ligne aujourd'hui avec lui. Vincent Lecarme, bonjour.
Bonjour.
Merci de répondre aux questions de Radio Semnose aujourd'hui autour de ce livre « Sentier de vie ». Vous avez toujours aimé écrire et vous avez commencé à le faire particulièrement dans les années 90 pour rendre compte de ce que vous viviez en tant que médecin généraliste en montagne. Qu'est-ce qui vous a poussé particulièrement à cela ?
Le plaisir d'écrire déjà, parce que c'est quelque chose que j'aimais. Et puis l'envie de raconter le mode de vie particulier que j'avais. J'ai vécu des choses belles, j'ai vu des choses intéressante, exceptionnelle, banale, tout ce qu'on veut de la vie. Et j'ai trouvé que c'était bien. J'ai eu envie d'écrire des petits récits au fur et à mesure, mais pas forcément pour les faire lire, mais déjà pour les garder en mémoire et peut-être les donner en mémoire à mes enfants.
C'est en 1982 que vous êtes installé à Lens-le-Villard, après Modane, en tant que médecin généraliste. Donc, pour vous qui êtes né à Grenoble, être médecin de montagne, c'est quelque chose qui s'imposait ?
Oui, parce que j'ai vécu dans un milieu de montagne. Grenoble est une ville de montagne aussi. On est entouré de trois chaînes qui sont très belles. J'avais fait des remplacements en ville, j'avais travaillé à l'hôpital et c'est un mode d'exercice qui ne me convenait pas. Je me sentais pas libre, j'avais envie d'être un petit peu seul pour exercer mon art de la façon dont qui me plaisait ou que je voulais faire. Et puis donc la montagne s'est trouvée des opportunités de venir en Haute-Maurienne, donc j'ai sauté sur l'occasion.
Dans votre livre, nous découvrons en 11 tableaux la vie que vous avez menée, où la nature a toute sa place en majesté. La nature, c'est une ressource pour vous ? C'est un moyen de ressourcement, justement, peut-être ?
Alors, elle l'était déjà au départ, parce que j'ai toujours eu une attirance pour la nature. Et là, en vivant dans la nature, au milieu de la nature, j'ai appris beaucoup de choses. Et bien sûr que c'est une ressource. C'est une compensation, une ressource, une mise à l'épreuve. Voilà, tout ce qu'on peut attendre de la nature.
Mais alors la Haute-Maurienne, comme beaucoup de nos montagnes dans les Alpes, ce sont des lieux qui sont partagés entre vie rurale et saison touristique. Comment est-ce que vous avez vécu ce grand écart régulier ?
Je crois que c'était un très bon équilibre. En intersaison, c'est-à-dire automne et printemps, le village est assez calme, les villages sont assez calmes, mais il y a quand même une vie importante. Et on a une communauté de vie avec les gens des villages, du pays. Et médicaments parlant, on a plus le temps de s'en occuper, eux sont plus disponibles aussi. Et puis on crée des liens, on les découvre, on s'apprivoise, donc ça c'est intéressant. Et puis en saison, on a les deux, c'est-à-dire la grosse saison touristique, avec des gens qui viennent de tous les horizons, de tous les pays. Alors c'est très différent, la manière d'aborder ces patients-là est différente, mais c'est chaque fois une découverte, et puis ça fait une bonne ouverture sur, entre guillemets, sur l'extérieur.
Votre livre, Vincent Lecarme, est construit en court récit, vous le disiez tout à l'heure. Il est d'ailleurs difficile de s'en détacher parce qu'on se dit, voilà, on en lit un petit bout et puis on a envie de connaître la suite ou de découvrir quelque chose de différent. Les situations sont souvent étonnantes, parfois même totalement incroyables. Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué plus que d'autres ?
Moi, je crois que ce qui m'a marqué, au bout du compte, le plus, c'est les deux extrémités de la vie, c'est-à-dire la naissance et puis la mort. Alors, c'est des choses devant lesquelles on est témoin et puis quelquefois acteur. La naissance, on est acteur et témoin aussi. La mort, on est moins acteur, mais on accompagne les gens jusqu'au bout. Et puis, il y a toutes les fantaisies de la vie, les surprises de la vie, de la pathologie des gens. On n'est jamais blasé, on n'est jamais lassé. Tout peut arriver et c'est ça qui me plaisait.
Alors ça, ce sont des choses évidemment que l'on retrouve dans votre livre régulièrement. On passe de l'un à l'autre. Vos récits sont toujours empreints d'une grande humanité, même dans les moments où tout s'enchaîne à un rythme trépidant. Parce que franchement, je me demande comment vous faites pour tenir bon dans ces circonstances-là. Vous avez un secret ?
Le premier secret, si secret il y a, c'est d'aimer ce qu'on fait. Et puis d'aimer les gens. Je crois que la médecine n'est pas compatible avec... Ça n'a pas cette humanité. L'humanité, ça signifie bienveillance et compassion, donc c'est les deux piliers de notre travail de médecin. Et puis c'est un lien infiniment précieux et beau avec les personnes qui sont comme nous, donc ça c'est une belle école de vie. Alors c'est vrai qu'on voit des choses très dures, mais à partir du moment où on est actif dans une situation, c'est très différent. Si j'étais témoin passif, je ne supporterais pas la situation. Si je suis témoin actif, j'ai appris des choses, j'ai appris des techniques, Et puis on met nos émotions un peu au placard quelquefois, et puis après on fait un peu, une fois qu'on est tranquille dans sa voiture ou en forêt, ou quand on se balade, on fait un peu du nettoyage. Donc la nature, encore une fois, pour ça, est une bonne thérapeutique.
Oui, parce qu'il y a des moments où les temps de parcours sont carrément importants. En montagne, ça paraît assez logique d'ailleurs, avec des fois où vous n'êtes pas tout à fait certain de trouver le bon endroit ou d'arriver au terme de votre trajet. C'est toujours plein de rebondissements.
Souvent, c'est mal indiqué, les gens nous indiquent mal. Souvent, les touristes se trompent de village ou les gens qui nous ont un accident, ils sont affolés, ils ne connaissent pas forcément la région. Donc, des fois, il faut un petit peu aller à la boussole psychologique pour trouver. Mais finalement, ça, j'ai jamais raté personne, donc ça doit fonctionner quand même.
Les attitudes des personnes que vous avez soignées sont très diverses, génèrent en général de votre part de l'empathie. Vous avez beaucoup développé ce côté-là, je ne sais pas si c'était naturel dès le départ. Il y a aussi des moments de rire, mais également des moments où la colère monte quand vous êtes par exemple appelé à 2h du matin pour un rhume. Comment est-ce que vous gérez tout cela? Vous aviez bénéficié d'un entraînement psychologique?
Je sais pas, j'étais dans une famille nombreuse, j'ai vécu avec pas mal de personnes, donc on apprend à composer avec les autres. Les colères, c'était plutôt au début où j'étais là, parce qu'il y avait l'anxiété, la responsabilité qui était une pression, donc la colère était un moyen de sortir un petit peu, mais dans le cas précis de la personne là, qui m'a appelé 2h du matin, c'était vraiment pas du tout utile. J'ai vite rentré ma colère, parce que ou elle sort tout de suite, et elle doit être à peu près contrôlée, ou si elle sort pas, tant pis, on l'arrange, on fera du lavage plus tard. Mais effectivement, là, d'agacement, mais même les gens qui sont difficiles ou casse-pieds, ils sont pas inintéressants.
Ce lien avec l'humanité, vous êtes allé le trouver où? En vous, dans votre expérience peut-être initiale, dans vos expériences initiales, je dois mettre un pluriel. Qu'est-ce qui vous a amené à un tel attachement pour l'humain?
Parce que j'en suis un, parce que j'ai toujours eu envie de comprendre ce que c'était que l'humain, les personnes. J'étais d'une famille nombreuse, j'avais de nombreux frères et sœurs, on avait beaucoup de monde à la maison, mes parents étaient de braves gens, qui avaient toujours quelqu'un invité en plus à recevoir. Et donc on nous a appris ça comme étant une composante normale de la vie, et puis je crois que si on a un peu d'humanité, on en reçoit tout autant. Si on s'ouvre, à ce moment-là, on permet le dialogue.
Oui, vous venez d'évoquer à nouveau la question des liens familiaux, le fait que vous êtes issu d'une famille nombreuse, donc amené à accepter les différences déjà dans ce lieu-là. C'est un aspect essentiel, les liens familiaux, pour vous permettre là encore de tenir bon, me semble-t-il.
Oui, ça a été un modèle de société à minima, la société primaire, ça a été mes racines. Après, on en fait ce qu'on en veut, on évolue un petit peu, mais les choses qu'on nous a inculquées, qui nous correspondent, on n'a qu'une envie, c'est de les fructifier ou les faire partager ou les transmettre. Donc, dans notre métier, c'est ce qu'on fait aussi.
Est-ce que le fait d'être médecin généraliste a aussi entretenu ce type de lien? Parce que j'ai l'impression qu'en choisissant une spécialité, eh bien du coup, on est peut-être plus concentré sur un élément en particulier et moins sur, là encore, l'humain dans sa globalité.
Oui, mais ce qui est bien, c'est que la médecine générale est devenue enfin une spécialité, parce que c'était un petit peu considéré comme une médecine de dépannage, une médecine un peu comme une voie de garage, quoi. Alors que c'est une médecine qui doit demander tout le temps une formation permanente, parce que on n'a pas des demi-malades, on n'a pas de demi-connaissances, on n'a pas des demi-responsabilités, donc chaque fois il faut faire au mieux sans cesse. Donc ça nous apprend l'humilité, et puis on découvre énormément de choses. On apprend des collègues, on apprend des patients. On apprend de la vie parce qu'on expérimente, tout le temps on fait des expériences de vie avec les gens, on recherche le diagnostic. C'est pour ça que je voulais m'installer en montagne, parce que je voulais être pas trop protégé, trop près par l'hôpital, un peu cocooné. J'avais envie d'être poussé un petit peu par les événements et puis par l'éloignement. Et finalement, j'étais très ravi de ça parce que ça m'a fait vraiment avancer.
Le titre de votre livre, Vincent Lecarme, est donc « Sentier de vie, récit d'un médecin de montagne ». Sentier, évidemment, porte toute une série de dimensions, parce que ce sont les sentiers de montagne, ce sont nos parcours personnels. Est-ce que ce besoin-là, j'ai l'impression qu'il est réellement présent chez vous, c'est un besoin permanent que de rencontrer les gens, mais aussi de parcourir, j'ai cru le comprendre, en solitaire, toute une série de sentiers?
Alors les deux sont nécessaires. J'avais d'abord mis sentier au singulier, et puis l'église m'a proposé de marquer sentier au pluriel, et je trouvais que c'était très bien, parce que ce sont des sentiers qui sont partagés. Alors c'est vrai que des fois on est seul, des fois on a besoin d'être seul, Moi, quand j'étais épuisé ou qu'il y avait trop de pression, j'avais envie d'être seul, quoi. Ou dans la voiture, ou de me balader, ou pour laisser déposer les choses, pour profiter de l'instant, pour être... Ça, c'était la première chose, mais ces sentiers, on les partage ici. Hein. Quand on se balade sur des sentiers de randonnée ou de montagne, on croise beaucoup de gens. On est seul à par moment, des fois on croise des personnes et on est tout à fait content de les rencontrer. Donc les deux sont bien complémentaires.
Aujourd'hui, Vincent Lecarme, votre carrière est derrière vous, mais on sent que ça a été compliqué de décrocher, comme on dit. Ce livre a été un moyen pour vous de tourner la page en quelque sorte, ou il y a encore des choses à écrire?
Alors, il y aura peut-être encore des choses à écrire, mais ça sera pour me rappeler, il y a tellement de situations qui sont extraordinaires que je ne voudrais pas oublier. Donc peut-être pour me rappeler, mais le travail m'a manqué énormément. J'ai pris ma retraite parce que j'avais de l'âge et puis j'avais des problèmes de santé. Et puis qu'il fallait bien prendre la retraite. J'avais besoin de profiter de ma femme, de mes enfants, de faire des choses que je n'avais pas fait pendant toute ma carrière. Mais ça m'a manqué terriblement. Et puis progressivement, le fait d'avoir écrit, ça m'a donné un recul. Ça fait un petit peu une conclusion de... Bon, il y a une époque où j'ai travaillé, j'ai pris beaucoup de plaisir. Maintenant, il y a une époque qui est différente, mais j'ai rien perdu de ce que j'étais. Je sens que je suis encore médecin, je serai jusqu'au bout de ma vie. Mais que maintenant, je laisse la place à d'autres. Et puis je peux vivre autrement. Je crois que j'ai eu la chance, c'est pour ça que j'avais besoin de le partager aussi. Quand on a reçu des beaux cadeaux, on a envie un peu d'en faire profiter les autres. Je me suis trouvé à ma place dans cette région, je me suis senti bien. J'ai eu un grand privilège de pouvoir faire un métier que j'aimais. Donc c'est bien effectivement de le faire partager. Et je pense que chacun peut trouver un petit peu de résonance. Moi j'ai souvent des retours des anciens patients, etc. Et ça fait résonner les gens, disons ça ouvre quelque chose, ça. Ils se disent, bah, finalement, on n'est pas différents. Nous aussi, on a des émotions. Nous aussi, on a des difficultés. Nous aussi, on est fatigués. Donc, ouais, c'est bien. C'est bien.
Ce qui me frappe, c'est que vous dites que ça a été un privilège pour vous. Et moi, j'ai l'impression que toutes les personnes qui vous ont rencontré, c'est plutôt pour elles que ça a été un privilège de vous avoir en tant que médecin.
Parce que c'est partagé. C'est partagé. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une fierté parce que je me dis que transmettre quelque chose et recevoir en retour, sans forfanterie, ni... c'est beau, quoi, c'est bien.
Aujourd'hui, vous vous exprimez à travers les arts, en particulier la musique, la peinture. Quel est ce lien qui se crée aussi par cet intermédiaire-là?
Parce que c'est en même temps un travail d'expression vraiment libre. C'est-à-dire quand on peint, quand on fait de la musique, on n'a pas d'enjeu particulier, autre que de s'exprimer, sortir de soi des émotions... et puis les partager éventuellement. Et puis, on apprécie le beau. Et dans l'art, dans la peinture, dans des tas de choses comme ça, la musique, il y a du beau sans fin, quoi.
À la fin de votre livre, vous nous racontez une dernière histoire et vous citez Vincent Lecarme, le petit prince de Saint-Exupéry. Vous êtes à proximité de Saint-Exupéry, du côté de Lyon. La relation avec le renard, ainsi que la rose, et donc le petit prince, apprivoiser, prendre soin, est toujours pour vous quelque chose d'absolument essentiel?
Oui, ça, j'ai appris ça pendant ma, j'aime pas le mot carrière, mais ma période de travail. Et puis, cette histoire avec cette rencontre, cet accident... Ça a été vraiment une, je sais pas comment ça, a été, ça devait se faire et ça m'a ouvert les yeux sur ce que je cherchais dans mon métier, quoi. Et c'est pour ça que ce texte, il a été écrit vraiment à la fin de mes écrits et je trouvais qu'il correspondait bien. C'était une conclusion, pour moi ça a été une découverte, donc je voulais faire partager cette découverte.
Voilà, eh bien, chers auditeurs, je vous invite vivement à lire ce livre qui peut être lu par petits bouts ou dans son entièreté, tellement on est emporté par ces différents récits. Ce livre de Vincent Lecarme, Sentier de vie, récit d'un médecin de montagne, est paru aux éditions Glénat. Je vous remercie beaucoup, Vincent Lecarme, pour ces moments partagés dans votre livre et avec nos auditeurs aujourd'hui. Merci infiniment.
Merci à vous également.